Bonsoir, comment allez-vous ? D'une nature distraite et inquiète, j'oublie beaucoup de choses. Donc, je passe mon temps à vérifier que je n'ai rien oublié. Mon entourage est à bout de nerfs. L'autre jour, dans le métro, je réalise que je n'ai pas mon badge pour rentrer à la radio. Je vide mon sac sur mes genoux pour être bien sûr que je ne l'ai pas. Il m'est déjà arrivé de croire que j'avais oublié un truc, de revenir le chercher, et en fait, je l'avais. Donc, en vidant mon sac, je m'aperçois qu'effectivement, je n'ai pas mon badge. Je reviens, je repars. Je réalise alors qu'en retournant mon sac, j'ai dû faire tomber ma carte de crédit. Une dame l'a trouvée, elle m'appelle, elle est gentille, mais elle habite à l'autre bout de Paris. Elle la tient à ma disposition, je cavale à Vincennes, la remercie, lui achète un cadeau et repart. J'arrive à la radio super en retard. Mon téléphone sonne, j'ai peur que ce soit notre invité, déjà en studio. Je cherche mon téléphone dans mon sac, je ne le trouve pas. Marjorie me dit « ton téléphone sonne ». Je lui dis « oui, j'entends, mais je ne le trouve pas, je ne l'ai pas, j'ai encore dû l'oublier ». Depuis ce jour, Marjorie me parle très gentiment et très doucement.
Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'habite à Colomiers et je me pose une question existentielle. Est-ce que ce que je fais détermine ce que je suis ? Merci de me répondre.
C'est une question pour un philosophe, hein, bien évidemment.
Tout à fait, c'est vraiment une question philosophique.
Alors oui, elle est pour vous, Bernard Stiegler.
C'est une très très bonne question. C'est compliqué d'y répondre. Évidemment que je suis déterminé par ce que je fais. Parce que, à mesure que je fais des choses, j'intériorise en les faisant des comportements qu'ensuite j'acquiers comme des habitudes, etc. Donc je me transforme en faisant des choses. Je peux me transformer d'ailleurs pour le pire. Par exemple, dans les abattoirs, on voit des gens qui se transforment, ils deviennent des barbares en tuant des bêtes, alors qu'on peut tuer des bêtes. Moi, j'en ai tué des bêtes à une époque. J'ai eu une vie un peu bizarre. Je faisais de l'élevage et on peut tuer des bêtes. Enfin bref.
Proprement, on va dire, entre guillemets.
Proprement. La question, c'est de savoir qu'est-ce que veut dire faire quelque chose. Je peux faire les choses de deux manières. Je peux faire les choses en me conformant à ce qu'on me fait faire, en fait. Je deviens un exécutant, un serviteur, voire un complice de quelque chose qu'on me fait faire. Ou bien je peux faire des choses comme Michel-Ange, ou Léonard de Vinci, ou Socrate. Je fais des choses et je me détermine. Oui, je ne suis pas déterminé par ce que je fais, je détermine ce que je fais. Et ça, c'est un sujet extrêmement important. Aujourd'hui, pourquoi ? Il y a une histoire du verbe « faire ». Il fut un temps où, par exemple, tous les gens faisaient des choses. La cuisine, un métier, ils les faisaient par eux-mêmes, ces choses. Et puis, petit à petit, des standards industriels se sont substitués à eux, les ont amenés à faire des choses par pure procédure, ce qu'on appelle de la procédure. Dans certaines circonstances, c'est allé très très loin, y compris dans des crimes de masse. Et une grande question se pose aujourd'hui à cet égard, parce que l'automatisation qui est en train de se développer va détruire énormément d'emplois. Que vont faire les gens qui n'auront plus d'emploi ? Eh bien, il faut leur redonner du travail. Le travail, c'est de faire les choses vraiment par soi-même. On va en avoir énormément besoin. Nous entrons dans l'anthropocène, enfin nous sommes dans l'anthropocène.
Qu'est-ce que ça veut dire, l'anthropocène ?
L'anthropocène, c'est une période où l'homme est devenu la force dominante de la Terre, et ça provoque le réchauffement climatique, la pollution atmosphérique, l'explosion démographique, bref, un avenir absolument noir. Et donc il faut produire beaucoup d'intelligence, il va falloir refaire des choses par soi-même et non pas imiter les autres. Et ça, c'est l'avenir. C'est l'avenir d'une économie que j'appelle, avec des amis avec qui je travaille, l'économie contributive.
Pensez-vous, Bernard Stiegler, qu'un homme qui travaille dans un abattoir parce qu'il n'en a pas trouvé d'autre, il dit « je fais ça toute la journée », j'abats des bêtes d'une façon qui ne me convient pas, mais je ne suis pas ce que je fais. Est-ce qu'il peut tenir le coup ? Ou est-ce qu'il devient fou à un moment donné s'il fait 8 heures par jour, 7 ou 8 heures par jour, quelque chose qui ne lui correspond pas ?
Moi, je pense qu'on peut tenir le coup à faire ça. Parce que j'ai réellement eu des animaux, je les ai emmenés à l'abattoir, j'en ai tué moi-même parfois, et je pense qu'il y a des gens qui travaillent dans les abattoirs qui ne sont pas des massacreurs. Il y a plein de gens très bien dans les abattoirs. Il y a plein de gens très bien partout, dans la police,
dans, bien sûr, partout.
Même chez les gardiens de prison, j'ai fait de la prison, je connais bien les gardiens de prison. Il y a plein de gens bien là-dedans. Ce qui est pas bien, c'est de considérer que l'autre, parce qu'il n'est pas moi, il n'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Mais évidemment, après, il y a des métiers que l'on fait qui peuvent être difficiles à faire sans se laisser compromettre par ce qu'on fait. Mais je pense que c'est toujours possible. Être un militaire, par exemple. Tuer des gens, c'est atroce. En même temps, il y a des militaires, on a besoin de militaires. L'histoire est faite de militaires aussi. Hein. Là, la question, c'est la responsabilité des hiérarchies. Si on pousse les gens n'importe qui au crime, il commettra un crime.
C'est pas parce que quelqu'un n'est pas moi qui n'est pas bien. Le philosophe Bernard Stiegler enseigne en France, aux États-Unis et en Chine. Il a écrit dans La Disruption comment ne pas devenir fou au lien qui libère. Et puis il a aussi écrit en 2009 Faut-il interdire les écrans aux enfants ? C'était chez Mordicus. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Alors ce soir, vous avez demandé pourquoi on ne se prend pas des météorites plus souvent. Vous avez également demandé si les canards ont des oreilles et quelle est la différence entre régner et gouverner.
Bonjour, je m'appelle Marie-Lou, j'ai 8 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas d'arbres au désert et les personnes peuvent respirer. Au revoir.
Ernst Zürcher, vous avez écrit chez Actes Sud les arbres entre visibles et invisibles. Marie-Lou demande comment on fait pour respirer dans le désert puisqu'il n'y a pas d'arbres.
Oui, alors ça c'est possible parce que l'oxygène émis par les arbres, l'humidité, les conditions favorables à la vie qui sont donc produites par la forêt, toute cette atmosphère circule et a des grands mouvements. Donc même dans le désert, on a de l'oxygène qui provient de plantes et des algues, des océans qui existent ailleurs.
Donc en fait, on n'a pas besoin d'avoir des arbres là juste autour de nous. Il faut qu'il y ait des arbres sur cette planète.
Exactement. Et l'emplacement de ces arbres est extrêmement important. Ils sont le plus important en zone tropicale parce que c'est là la partie la plus sensible de la Terre.
Ah bon ? Pourquoi ?
Par rapport au rayonnement solaire qui est extrêmement intensif, et là-bas vous avez un risque de dessèchement de la forêt, ensuite d'érosion des sols et de désertification absolument énorme. C'est très facile de désertifier une forêt en zone tropicale avec cette énergie solaire énorme mais qui est contre laquelle se protège la Terre grâce à des forêts.
Donc c'est bien fait. Parce que finalement, les arbres qui sont près de l'équateur, donc l'endroit le plus exposé au soleil, sont énormes et touffus, alors que les arbres qui sont au pôle, où la Terre n'est pas tellement exposée au soleil, sont rikiki.
Magnifique, c'est extrêmement bien résumé.
Merci.
On peut dire que, contrairement à ce qu'on pensait, ce n'est pas parce que le climat est chaud et humide que les arbres poussent bien au tropique, c'est parce qu'il y a des arbres au tropique que le climat est chaud de toute façon, mais humide.
Extrêmement bien résumé, m'a-t-on dit. On se moque de moi au bureau, ils sont jaloux. Ernst Zürcher a écrit « Les arbres entre visibles et invisibles » édité chez Actes Sud.
Bitch, I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singing single. Ain't worry about a ring on my finger. So you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend, set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Yeah, yeah. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like, aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like, aye, aye, aye. Wild men great till they gotta be great. Don't text me, tell it straight.
hurts, la vérité fait mal, c'était Lizzo. C'est réussi ce phrasé. Hein. Elle n'a pas toujours fait du rap, la jeune Lizzo. Elle a failli devenir concertiste classique. Elle jouait de la flûte traversière. Et puis à l'adolescence, elle a fondé des groupes de rap.
Les petits bateaux sur France Inter.
Notre numéro de répondeur, c'est le 01 56 40 43 57.
Allô, je m'appelle Paul, j'ai 9 ans. Et j'aimerais savoir quelle est la différence entre régner et gouverner. Merci.
Bonsoir Paul. Alors ta question tombe en plein dans votre dernier livre, Stephen Clark, qui s'appelle Élisabeth II ou l'humour souverain. C'est édité chez Albin Michel. Donc vous parlez de ces nuances puisque vous parlez précisément de la reine d'Angleterre. La différence entre régner et gouverner, demande Paul.
Oui, bonsoir Paul. C'est une question très subtile, très importante pour les Anglais aussi, parce que c'est vrai que la reine, elle règne, mais elle ne gouverne absolument pas. C'est ça la différence avec la monarchie anglaise par rapport à l'ancienne monarchie française, c'est que la reine n'a pas de pouvoir politique. Elle n'a pas le droit de s'exprimer sur la politique. Tout ce qu'elle fait, c'est elle donne le discours pour l'ouverture du Parlement, mais ça, c'est le gouvernement qui lui passe le discours. Et elle annonce juste ce que le gouvernement va faire. Elle n'a aucune influence là-dessus, vraiment. Même si, moi j'ai trouvé ça super, quand la reine a été obligée de lire le texte annonçant le Brexit, elle a choisi ce jour-là de mettre un chapeau aux couleurs de l'Europe. Elle a mis un chapeau bleu avec des étoiles dorées dessus. C'était un petit commentaire. Elle n'a pas le droit de s'exprimer, mais elle a le sens de l'humour. Et elle a fait ça, ça a beaucoup marqué les gens. Mais justement, ça montre à quel point elle n'a pas le droit de dire quelque chose ouvertement sur la politique. Ce qu'elle fait, c'est que tous les mardis après-midi, normalement, pendant les séances de Parlement, le Premier ministre va la voir à Buckingham Palace pour un entretien. Et là aussi, c'est juste pour discuter. Les premiers ministres peuvent faire ce qu'ils veulent après. Apparemment, ils écoutent la reine, ou elle aussi, c'est des dames aussi, elles écoutent, parce que la reine, mine de rien, elle a connu, je pense que maintenant, c'est 13 premiers ministres. Et le premier, c'était Winston Churchill. C'était quand même le héros de la guerre. Donc, elle en a connu des politiques. Donc, elle a une voix assez sage là-dessus. Mais normalement, tout ce qui est dit entre le Premier ministre ou la Première ministre et la reine reste complètement secret. Et une seule fois quelqu'un a révélé, c'était Tony Blair. Il a écrit un livre où il a révélé le contenu de ses entretiens. Elle était tellement fâchée que c'est un des seuls premiers ex-premiers ministres qui n'a pas été chevalier. Il n'est pas sœur parce qu'elle est fâchée, parce que ça reste secret. Ses opinions à elle n'ont pas le droit de sortir. Donc, elle ne gouverne vraiment pas. Mais moi, je pense qu'elle a une fonction politique très importante. C'est que, en fait, elle est là aussi pour éviter que les politiciens aient la grosse tête. Parce que quand on est devant une reine qui est là depuis 60 ans, les premiers ministres qui sont là pendant 4 ou 5 ans, ou peut-être un peu plus s'ils sont réélus, mais ils ont vraiment l'impression, je suis pas la personne la plus importante dans ce pays. Il y a autre chose dans le pays. Et ça évite vraiment, je pense, contrairement à d'autres pays, j'en nommerai pas, au chef d'État d'avoir la grosse tête.
C'est charmant cet accent. Hein. Pensez-vous qu'un Français qui parle anglais a un accent aussi sympa qu'un grand Breton qui parle français? I'm a friend note.
Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 5 ans et je voudrais savoir est-ce que les canards ont des oreilles. Au revoir.
Allô, bonjour, je m'appelle Éline, j'ai 8 ans et je voudrais savoir comment les oiseaux, ils écoutent parce qu'ils n'ont pas d'oreilles et aussi ils chantent.
Vous êtes présidente du Centre ornithologique d'Île-de-France, Guilhem Le Saffre. Alors, ces jolies questions sur le...
C'est une question qui montre que les enfants sont parfaitement observateurs, parce que c'est vrai que quand on voit un oiseau, on ne voit pas ses oreilles. Certaines personnes pensent que les hiboux ont des oreilles, parce que vous savez, ils ont des plumes sur le haut de la tête, qu'on appelle des aigrettes en réalité, qui ne sont pas du tout des oreilles. Donc, tordons le cou à cette légende, aucun oiseau n'a d'oreilles externes. Nous avons des oreilles bien pratiques pour poser nos lunettes, nous en avons tous les deux, mais les oiseaux n'en ont pas. Heureusement, ils ne portent pas de lunettes. Mais ils ont des oreilles, oui, bien sûr, ils ont des oreilles internes, tout comme nous. Et pour le savoir, si vous avez l'occasion de souffler sur la tête d'un oiseau en captivité ou même d'un poulet, hein, vous verrez que si vous soufflez un petit peu en arrière de l'œil, vous soulèverez des plumes qui vont faire apparaître ce qu'on appelle le conduit auditif. Et c'est tout simplement, comme chez nous, l'entrée de l'oreille qui va permettre à l'oiseau d'entendre tout à fait comme nous et même dans certains cas mieux que nous.
Donc il a un trou, comme nous, par lequel les sons arrivent, ils sont traités à l'intérieur, mais il n'a pas de lobe et de tout un tas de cartilages comme nous avons.
Voilà, exactement. Il n'a pas tout ce qu'on appelle un pavillon externe et qui nous permet de rabattre les sons vers nos oreilles. Alors, on pense que c'est probablement dû à l'évolution qui, au cours des millions d'années, a façonné les êtres, dont les oiseaux. Les oiseaux seraient probablement gênés par des oreilles pour voler, parce qu'il n'y a rien de moins aérodynamique que des oreilles externes. Les oiseaux en sont dépourvus, et leurs conduits auditifs en plus sont bien protégés par des petites plumes très courtes et très résistantes qui vont empêcher l'air de s'engouffrer désagréablement dans l'air quand il vole. Parce que quand un oiseau vole à 100 ou 120 km/h, ce qui peut parfaitement arriver, ça ferait mal l'air qui rentrerait comme ça dans les oreilles.
Et oui, effectivement, on le voit en ce moment où il fait froid, le vent dans les oreilles, c'est extrêmement désagréable. Depuis qu'il est venu, Guilhem Le Saffre est maintenant devenu administrateur du Centre ornithologique d'Île-de-France et il a écrit beaucoup de livres sur les oiseaux, bien sûr, que vous pourrez trouver sur le site des Petits Bateaux.
Des traces d'audace se placent devant les deux, en face d'un jeu si contagieux, ma peine s'efface peu à peu.
And I got no shame.
Si tu peux, ne cache pas la honte dans tes yeux, raconte-moi d'un long adieu cet acte lent et douloureux. Entre deux, il n'y a qu'un grand milieu, un lieu de peine qui pleure joyeux, nos larmes en sécheront le feu.
And they got no shame.
Dans tes yeux, des traces d'audace se placent devant les deux, en face d'un jeu si contagieux, ma honte s'efface peu à peu.
C'était Gejpati et Gonzalez. Je vous préviens, c'est une mélodie extrêmement entêtante. C'est drôle, je ne sais pas pourquoi c'est plus frappant la nuit que le jour. Quand on voit les étoiles, c'est toujours étonnant de se dire qu'au-delà de l'atmosphère, on arrive à voir si clairement, si loin, on arrive à voir l'univers.
Bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 8 ans. Je voudrais savoir pourquoi on ne se prend pas des météorites plus souvent. Merci.
Yaël Nazé, vous êtes astrophysicienne à l'Université de Liège, chercheur au FNRS. Pourquoi on ne se prend pas des météorites plus souvent, demande Yann.
Eh bien, je ne sais pas si Yann va être content ou pas, mais je peux lui dire qu'on s'en prend tout le temps.
Ah bon?
Ah ben oui, en fait, chaque jour, il y a à peu près une centaine de tonnes de matériaux extraterrestres qui nous tombent dessus. Tout le temps, chaque jour.
C'est énorme.
Ah ben oui, c'est énorme, mais c'est tout petit. On a des petits objets de l'ordre du grain de sable, voire plus petits, qui nous tombent tout le temps. Mais bon, évidemment, c'est moins impressionnant.
Alors, quand même, moi, si je trouvais un tout petit grain qui vienne de l'espace, ça m'impressionnerait, même s'il est tout petit.
Alors, il faut que vous regardiez votre toit. Dans les poussières qui sont sur votre toit, il y en a une partie qui vient de l'espace.
Waouh!
Alors, il faut bien regarder, évidemment. Hein. Ouais. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de savoir, bon, ok, on se prend, la Terre se prend comme ça d'une centaine de tonnes par jour, mais qu'est-ce qui arrive à cette matière? Eh bien, elle va tomber dans l'atmosphère. Elle va aller très vite, elle va du coup rencontrer l'air, ça va faire plein de collisions, ça va chauffer, et ça va faire une étoile filante.
Ah.
Alors, des toutes petites étoiles filantes quand c'est un truc tout petit, mais quand c'est un petit peu un plus gros, un petit caillou, bah, là, ça va faire quelque chose, une trace qu'on va voir. Et si ce petit caillou, il n'est pas consumé complètement dans l'atmosphère, eh bien là, il tombe par terre et on trompe, on a une météorite. Une vraie météorite, une belle, on va dire. Hein. Bon, alors évidemment, des morceaux plus gros, ça tombe de temps en temps. Si on prend des morceaux de quelques mètres, qui vont faire quand même un gros morceau, là, hein, au final, eh bien là, c'est à peu près tous les 4 ans. Où on a un morceau comme ça de quelques mètres qui nous tombe dessus. Alors si vous voulez vraiment de l'ordre de 10 km, hein, le genre qui est tombé quand les dinosaures sont morts, eh bien là, c'est quand même tous les, disons, 150 millions d'années à peu près, hein, en tout cas les centaines de millions d'années, ça arrive très peu souvent. Donc le problème, c'est qu'il faut éviter les gros morceaux, parce que ça, c'est pas bon. Mais les petits morceaux, c'est vrai que c'est sympa, on a des jolies météorites, on a des jolies étoiles filantes avant de faire une météorite.
Mais vous, les astrophysiciens, vous savez à peu près ce qui risque de nous tomber dessus?
Alors, il y a des moments de l'année qui sont particulièrement favorables. Pourquoi? Parce que dans le système solaire, on a des comètes qui se baladent. Et les comètes, c'est des gros morceaux, on appelle ça des boules de neige sales. Donc, c'est de la glace avec et des poussières et des petits cailloux avec un peu plein de trucs. Et justement, quand ça s'est chauffé par le soleil, ben, cette matière sort de la comète. Et elle reste sur sa trace. Donc, la comète, si vous voulez, quand elle se déplace, elle laisse toute une traînée de poussière derrière elle. Et quand la Terre passe dans une de ces traînées, eh bien, forcément,
elle
se prend plus de poussière que d'habitude. Alors, bah, le morceau le plus connu, hein, c'est les fameuses nuits des étoiles filantes, hein, on est à l'été, donc les fameuses perséides. Mais il y a d'autres moments de l'année, hein, à peu près de, je veux dire, tous les quelques mois, vous avez une pluie d'étoiles filantes un peu plus forte. Le problème, évidemment, c'est que pour bien les voir, il ne faut pas rester en ville. Il faut aller en campagne pour avoir un ciel bien noir et pour pouvoir bien les observer, en profiter.
Ah bah les réverbères, merci à El Nazé, je vais aller sur mon toit ramasser les météorites. Mais quand elles sont grosses comme une tête d'épingle, comment reconnaître une météorite d'une raclure de tuiles ou d'une poussière de crotte de pigeon? J'aurais dû lui demander. Les petits bateaux sont terminés pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceinter.fr. Merci à tous et à toutes, c'est-à-dire à Marjorie Devoucaux, Eliane Gérard, Noël, Bréham, Jean-Baptiste Audibert, Clément Vuillet. Je vous laisse avec Denis Chessou pour La Tulu, mon petit loup, et vous donne rendez-vous dimanche prochain à 19h30.